بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Mes chers frères, vendredi dernier, on avait commencé les cinq premiers versets du surat Al-Fajr. Et on avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait le qasam par certains signes dans sa création. Et les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérés au début du verset, au début du surat Al-Fajr, ce sont là des signes qui ont une importance tant dans l'existence, dans Al-Kawn, mais également sur le plan spirituel. Et on avait vu l'importance du terme Al-Fajr, que c'était le moment de la prière de Fajr, c'est un moment clé également de l'accomplissement du Saum, du jeûne, du Ramadan. On avait vu également certains vertus de Walayal et Na'ash, c'est 10 nuits. On a vu que certains ils voient que c'est les 10 jours de Dhul-Hijjah. D'autres ulama considèrent que c'est les 10 jours, les 10 nuits du mois de Ramadan. Et on avait cité quelques vertus de ce moment. On avait vu également lorsqu'Allah Ta'ala dit Wallayli ida yasr, ça aussi c'est un moment important, c'est quand la nuit elle s'étend. On a vu la traduction exacte de Wallayli ida yasr, et par la nuit quand elle s'écoule. Et on avait vu certaines vertus de ce moment de la nuit qui est, comme on dit en arabe, akhir thuluth al-layl, le dernier tiers de la nuit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il descend au ciel qui est à la limite du dunya, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande man yas'alni fa'u'tihi man yad'uni fa'astajib lahu wa man yastaghfir li wa man yastaghfirullah wa man yastaghfirni fa'aghfir lahu. Lorsque Allah ta'ala dit qui me demande que je donne, qui m'invoque que j'accepte, que j'exauce, et qui me demande pardon que je pardonne. Et on a vu que le musulman, il a la solution donnée par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, que n'importe quelle personne qui a un besoin, n'importe quelle personne qui souffre d'un quelconque problème, il n'a qu'à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et spécifique, de manière spécifique dans ce dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations, Allah ta'ala écoute les personnes souffrantes, et Allah ta'ala accepte le repentir. Et on avait vu également qu'une personne peut se réveiller tous les jours pour le Qiyam al-Layl, le Tahajjud, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala un dua précis, une invocation précise, soit la santé pour quelqu'un qui est malade, soit les bienfaits pour quelqu'un qui est pauvre, soit une famille, pour des enfants pour un homme qui ne peut pas, ou une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Mais malgré cela, Allah ta'ala n'exauce pas ce dua. Allah ta'ala n'exauce pas la demande, et la personne ne voit pas le doigt qu'il a demandé s'exécuter, se réaliser. Alors est-ce que ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'a pas accepté le doigt, alors qu'on vient de dire que dans le dernier tiers de la nuit, Allah accepte et qu'Allah est présent, je vais dire physiquement, mais ce n'est pas le terme qu'il faut. Allah écoute plus qu'il n'écoute en temps normal. Alors on avait expliqué que lorsqu'un musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala un doigt, il est possible qu'Allah lui donne ce qu'il demande tout de suite. Allah, il exauce le vœu comme la personne l'a demandé. Mais parfois, Allah Ta'ala, il sait qu'on veut quelque chose, mais cette chose-là n'est pas bonne pour nous. D'accord? Une personne travaille du matin jusqu'au soir, elle demande à Allah, je veux avoir tel poste, je veux monter de grade dans mon entreprise pour avoir plus d'argent, pour avoir un salaire plus conséquent, pour pouvoir mieux vivre, pour que ma famille ait un meilleur niveau de vie. La personne travaille, elle fait des efforts, et elle se lève tahajjud, elle demande doigt. Elle va faire le hajj ou le wukuf Arafat, elle demande doigt. La personne cherche tous les moments importants. Elle va faire rosa le lundi et le jeudi. Au moment de rompre le jeûne, la personne va demander ce doigt. C'est-à-dire que tous les moments où Allah Ta'ala exauce les doigts, entre les deux khutbahs de Jum'ah, dans son cœur, elle va demander doigt. C'est-à-dire que la personne a couvert tous les moments où les doigts sont acceptés. Malgré ça, Allah ne lui donne pas. Ça ne veut pas dire qu'Allah n'a pas exaucé ce doigt. Et ça ne veut pas dire non plus que
comme Allah a vu que cette chose n'est pas bonne pour cette personne, Allah a préféré ne pas lui donner et c'est tout. Si Allah Ta'ala avait décidé et avait agi de la sorte, Allah aurait été hakim et adl. Allah aurait été juste quand même. Mais Allah Ta'ala, lorsqu'il ne donne pas à une personne quelque chose, ça on avait déjà expliqué, c'est pour un bien pour cette personne. Car dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que pour certaines personnes, Allah Ta'ala a décrété que ces gens-là seront riches. Parce que si ces personnes auraient été pauvres, elles seraient tentées de faire tel péché pour avoir des biens. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala a décrété que ces personnes-là soient pauvres. Ils restent pauvres et meurent pauvres. Parce qu'Allah Ta'ala, il savait déjà que si ces personnes avaient eu de l'argent, avaient eu de la richesse, ces personnes auraient fait tel péché. Donc Allah Ta'ala garde ces personnes pauvres. Ça, c'est des hadiths importants pour comprendre le taqdir, pour comprendre le destin. Alors si déjà Allah Ta'ala ne nous donne pas parce qu'ici c'est pas bon pour nous, c'est déjà un ni'mat. C'est déjà un ni'mat. Combien de personnes ont eu la richesse et la richesse les a détournées du droit chemin? Une personne qui avait dit quelque chose, une fois, subhanallah, une personne qui est vraiment régulière dans ses salats, dans les a'mal, la personne me dit qu'avant, j'étais comme ci, comme ça, je faisais tel métier, on ne va pas dire c'est quoi. J'étais un homme qui faisait tout ce qui... Je profitais de la vie. Il m'est arrivé un accident. Personne ne m'a dit personnellement. Depuis cet accident, je me suis remis en cause. J'ai compris que vraiment, je ne suis rien. Que maintenant, je ne suis rien, je suis dépendant d'Allah. Si l'opération réussit, je pourrais peut-être revivre comme quelqu'un normal. Si l'opération rate, je peux être handicapé à vie. Et Alhamdulillah, Allah Ta'ala a donné la santé à cette personne, pas 100%, mais d'une certaine manière que la personne, elle reste indépendante. Et la personne me dit que depuis ce jour, je suis reconnaissant vers Allah. Et maintenant, la personne a compris, elle est régulière dans une salade. Et elle est, comme on appelle, mutadayyin, elle est régulière dans les principes de la religion. Donc Allah Ta'ala, lorsqu'il ne donne pas à quelqu'un une chose, ça c'est déjà un rahmat de la part d'Allah, une preuve de clémence. D'accord? Mais en plus du fait d'agir avec sagesse, avec les serviteurs, et de ne pas leur donner ce qui n'est pas bon pour eux, alors qu'eux ne savent pas, en plus de ça, Allah Ta'ala, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne vous donne pas la chose que vous demandez, Allah, il vous garde la récompense le jour de Qiyamah. Hadith qu'on avait dit la dernière fois, mais il faut le répéter et répéter pour que ça rentre dans le cœur. Le jour de Qiyamah, une personne verra ses actions, ses montagnes de bonnes et de mauvaises actions. Et comme on a dit que ça, c'est la qudrat d'Allah, que le jour de la résurrection, chaque bonne action, on va le reconnaître. Et chaque péché, on va le reconnaître aussi. De telle manière que s'il y a une bonne action qui ne vous appartient pas, vous allez reconnaître. Mais ça n'arrive pas, d'accord? Et donc la personne va voir des actions qui ne lui appartiennent pas. Elle dit, oh Allah, ces bonnes actions-là, ça ne m'appartient pas. La personne pense peut-être que les anges se sont trompés. Il y avait trop de monde dans la salle, une bonne action en particulier, la maillée. Ou alors problème de réseau, non. Les anges ne se trompent pas, ça. Vous voyez? Allah dira à cette personne que ces actions-là, ces montagnes de thawab, de rétribution, ce sont les doigts que tu avais demandé dans ce dunya et que je ne t'avais pas donné dans ce dunya. Et je te les ai gardés en récompense, c'est-à-dire en compensation de la non-acceptation des demandes, des doigts. Allah Ta'ala, il donne un quota de savoir pour chaque doigt qui n'a pas été exaucé, dont on n'a pas vu la couleur de cette terre. Les commentaires disent que la personne, elle aurait souhaité qu'aucun de ses doigts ne fût accepté sur ce dunya, tellement elle va avoir des montagnes de récompense dans le Hafez. C'est pour ça, mes chers frères, quand le Prophète dit hadith que Ad-Dua huwa al-ibada, on entend certains riwayat, Ad-Dua mukhul al-ibada, c'est le cerveau des bonnes actions, mais cette deuxième version, elle n'est pas 100% authentique. Le Dua, c'est le ibada, parce que lorsqu'on fait Dua, qu'est-ce qu'il y a dans un Dua? Dans un Dua, les ulama disent que al-ibada, c'est quoi? Al-tadallul wal-khudu'. Quand c'est habituel, il fait un acte d'adoration pour Allah, c'est qu'il sait, il reconnaît que moi je suis petit, moi je suis faible. Et j'ai besoin d'Allah qui est au-dessus de moi et qui est tout puissant. Si Allah ne m'accepte pas, même si j'ai tout, j'ai rien. Et si Allah m'accepte, même si j'ai rien, j'ai tout, car j'ai le contentement d'Allah. C'est une grande histoire. Mais le ibada, c'est la soumission. C'est pour ça que lorsqu'une personne fait le ibada, hein, c'est comme si elle a hérité. Papa est finamain, mais finamaz, etc. Moussa a dit viens masjid. La personne, quand elle fait la salat, ou d'autres bonnes actions de manière habituel, comme si c'était une routine, vous avez accompli votre devoir. Mais le samara, le fruit de la bonne action, elle ne sera pas palpable dans notre vie. Contrairement aux sahaba, quand les sahaba font une action, il y a l'effet direct. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. État de blessé qu'on avait déjà expliqué avant. Malheureusement, quand on fait une bonne action par routine, et qu'on n'a pas compris que la bonne action c'est quoi, le ibadat c'est quoi, c'est d'abord la reconnaissance de la suprématie d'Allah, et reconnaissance de ma faiblesse, et je fais ça pour rechercher le contentement d'Allah. La soumission, ça c'est le terme essentiel dans tous les actes d'adoration. Vous voyez? Donc, alors on est arrivé à là, je ne sais plus comment on a pris ce chemin pour arriver à terre, Allah musta'an. Donc cette personne, on était où ça là? Personne qui va avoir cette bonne action. On a pris tellement de ruelles, on est arrivé tellement loin. Parce que c'est important, mes chers frères. Souvent, il y a des gens qui sont. Hein? Comment? Entendu. Tellement les gens, ils sont habitués. Alhamdulillah, les masjids sont pleins, les gens, ils font l'ibadat. Mais souvent, on oublie l'essence de l'ibadat. Parce que si on a compris, c'est quoi adorer Allah? C'est que je suis conscient qu'Allah me voit tout le temps. Donc, je fais ça pour Allah, pour qu'il soit satisfait de moi. Mais quand vous aurez envie de faire un péché. Mais vous ne le ferez pas parce que vous avez cette conscience qu'Allah il me voit. Et que si je fais ça, Allah sera mécontent de moi. Ça c'est important qu'on inculque ce qu'on appelle muraqabatullah. La pensée d'Allah, on inculque ça à nos enfants. C'est bien, hein, c'est un écrit quelque chose l'autre fois, c'est bien qu'on enseigne à nos enfants, on apprend à devenir namaz avec papa. C'est bien qu'on dit à nos enfants, faire un Quran. Mais combien, hein, sur un groupe, hein, il y a un jeune qui m'a écrit un courrier, mais dit qu'il faut faire un bayan pour les hafiz du Quran. Il a dit, combien hafiz le Coran, ils font tel, tel, je ne vais pas citer les péchés, on n'est pas là pour ça. Combien hafiz le Coran, ils font tel, tel, telle chose, telle, telle bêtise. C'est-à-dire qu'on ne le distingue plus, on ne distingue plus les qualités du hafiz. Si Moussala Tarawih sera impeccable. Si Moussala Tarawih, on verra le hafiz du non-hafiz. Mais dans la vie tous les jours. Si au lycée, le hafiz, il fait la bise aux filles comme tout le monde. Si au lycée, le samedi soir, le hafiz, il va au même endroit que tout le monde. S'il fait tout comme tout le monde, où est le natija? Où est la présence du Coran dans le cœur de cette personne, hein? Je donne des ça à quelqu'un une fois, bon, peut-être on va mal le prendre, hein, tant pis. Elle dit que nos enfants, parfois, ils sont comme des automates, comme des robots. Elle dit que, bon, vous voulez l'école, vous voulez madressa. L'objectif école, c'est quoi? Bac. Objectif madressa, c'est quoi? Hafez. Et puis c'est fini. Maman, il dit, magé bac, magé hafez. Pour lui, mission est accomplie. Les parents sont fiers. Après, il dit, maintenant, va continuer tes études en métropole. Et là, les cages sont ouvertes. Le fog est à l'extérieur. Il n'y a plus les parents. C'est-à-dire que cet enfant, ce jeune qui va aller étudier en métropole, il a 18 ans, 19 ans, il va aller étudier en Allemagne, en Angleterre, n'importe quel pays. D'accord? Si on n'a pas inculqué à cet enfant, muraqabatullah, crains Allah, mon fils. Ittaqillah, ça, le prophète le disait à tout le monde. Sahaba, il va en voyage, il y a le prophète dit au prophète d'Allah, Aousseini, je veux un conseil. Le prophète dit, ittaqillah. Quand le prophète dit, Sahaba, ittaqillah, Sahaba, qu'est-ce qu'il fait? Sahaba, il pleure. Pourquoi il pleure? Il sait qu'est-ce que ça veut dire craindre Allah. Quand je crains Allah, est-ce que je crains Allah juste dans ma masjid et dehors? Non, c'est pas possible. Si dans la mosquée, on comprend qu'on ne fait pas de péché, et qu'à l'extérieur, c'est la vie de tous les jours, ben ça veut dire qu'on n'a pas compris din. On n'a pas compris ibada. On n'a pas compris que ibada, c'est soumission. Quand on est soumis à Allah, c'est. Mettez dans notre tête, c'est comme si que quand on vit, hein, c'est comme si qu'on est en sijda devant Allah toute notre vie. C'est comme si on est en sijda devant Allah, on se rabaisse pour Allah, on fait tout pour Allah, et Allah est au-dessus de nous et Allah nous voit. Je dis ça pour moi premier, mes chers frères. Parce que l'enfant dont le papa a pris l'habitude de l'amener masjid tout le temps, alhamdulillah, l'enfant dont ce père a fait un hafiz au Coran, alhamdulillah, mais que le papa l'a pas expliqué, mon enfant, tu apprends le Coran, pourquoi? Ou mon enfant dans le Coran, Allah dit telle, telle chose, qu'il n'a jamais compris, alhamdulillah. Il n'a jamais compris qu'il est Allah Ahad. Il n'a jamais compris qu'il y a Ayyuhal Kafirun. Et que cet enfant qui est toujours venu à la salat, son papa n'a jamais expliqué c'est quoi un sejda. Ben l'enfant là, tant que vous êtes là, il vous suit lui. Il a fait tout comme vous dites. Quand il aura 13, 14 ans, il a envie de sortir un peu des sentiers, le papa se prend avec le bâton. Et l'enfant, il va rester sur le droit chemin parce que papa me surveille. Mais lorsqu'il sera libre, si on n'a pas inculqué à ce jeune la crainte d'Allah, la pensée permanente d'Allah, Allah musta'an, Allah seul sait. Et il y a beaucoup de gens, ça on l'avait déjà dit, qui sont réguliers dans les bonnes actions. Ils font tout, alhamdulillah. Salat, zakat, saum, ramadan, hajj, umrah, tilawat, le Qur'an, tout. Mais face au péché, ils sont vulnérables. Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Parce que l'accomplissement des bonnes actions n'est pas une finalité. L'accomplissement seul des bonnes actions, si elle n'est pas accompagnée par l'éloignement du haram, le iman n'est pas complet. Parce qu'il y a des choses haram qu'on fait qui brûlent nos bonnes actions. Et la personne qui fait beaucoup de bonnes actions, mais qui, face au péché, n'arrive pas à se contrôler, mais la personne-là, son iman n'est pas encore complet. Parce qu'il n'y a pas un poisson de taqwa. Allah me pardonne en premier. C'est-à-dire que je ne suis pas conscient qu'Allah me voit. D'accord, je fais bonne action, je sais qu'Allah me récompensera. Mais il y a une différence entre, c'est assez subtil, il y a une différence entre être conscient qu'Allah me récompensera et être conscient qu'Allah me voit en permanence. Celui qui a compris qu'Allah le voit en permanence, ben, face au péché, cette personne restera éloignée. Ça s'appelle al-ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tara fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. C'est comme si Allah est devant moi toute ma vie. Et Allah, il est réellement, hein, au-dessus, Mustawa al-Arash. Allah, il nous voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, paroles, actes, faits, gestes, tout ce qu'on a dans nos cœurs. Allah, il sait. C'est important, mes chers frères. Très souvent, nous n'avons pas compris les choses essentielles de notre dîme. La crainte d'Allah, on doit le comprendre et l'inculquer à nos enfants. On continue. Alors, on avait vu ces signes qui prouvent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir rapidement. On est à 16 minutes. En un quart d'heure, Inch'Allah, on va voir 3 ou 4 exemples. Allah ta'ala, il donne de le Coran 3 exemples précisément de peuples précédents dont Allah ta'ala, il cite les exemples de ce surat pour que le prophète sallam il entend, les mu'minines, les musulmans l'entendent, et surtout les kuffars de Quraysh, les polythéistes de Quraysh et des autres tribus arabes de la Mecque, ils prennent conscience que ces peuples qui nous ont précédés, qui ont précédé donc les Quraysh, c'était des peuples plus forts, plus riches, plus puissants que nous, c'est-à-dire que les Quraysh. Et ils ont eu la même réaction que nous, que nous sommes les plus forts. Qui est capable de nous faire chuter? Qui est au-dessus de nous? Parce qu'Allah les avait donné des choses. Allah les avait donné des bienfaits spécifiques à chacun de ces trois peuples. Et lorsqu'ils ont fait preuve de inad, ils ont fait preuve de takabur, d'orgueil, ils n'ont pas accepté la mission du prophète qui leur a été envoyé, dans le cas de Salih, Hud et Moussa alayhi salam, Allah les a détruits. Donc le message est pour le peuple de Quraysh, mais les Moufassins disent que c'est un message général. Toutes les personnes à toutes les époques qui lisent ces versets, ils doivent savoir qu'avant nous, l'histoire prouvait qu'il y avait des peuples plus forts que nous, plus forts, plus puissants, avec moins de moyens, mais ils arrivaient à beaucoup de choses. Mais malgré cela, Allah Ta'ala les a détruits, donc c'est un message qu'Allah fait passer dans ce verset à l'attention de toute personne qui lira ce verset jusqu'au Qiyama. Alors, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, dans ce premier verset, Allah Ta'ala, il donne l'exemple du peuple de Had. Et on ne va pas raconter l'histoire. Le peuple de Had, c'est un peuple qui vivait dans le sud de la péninsule arabe. Et Allah Ta'ala avait envoyé quel prophète? Hazrat Hud, alayhi salam, pour faire la da'wa à ce peuple. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Que man achat domina, ou à qui est plus fort que nous? Ils n'ont pas accepté le message de Hud. Et on sait que tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont toujours été pauvres. Il n'y a pas eu, à l'exception de Suleyman alayhi salam, tous les prophètes étaient des gens pauvres. Donc, les notables, les riches, se disaient, pourquoi on va suivre quelqu'un comme lui? On va délaisser l'habitude de nos grands-parents. Donc, ils se voient plus forts. Man achat domina quoi? Et Allah Ta'ala, il a fait comprendre à ce peuple, awalam yarao, an Allah alladhi khalaqahum, huwa achat dominhum quwa. Est-ce qu'ils ne voient pas que Allah, celui qui les a créés, c'est Allah qui est au-dessus d'eux, c'est Allah qui a plus de force que ces gens-là. Et Allah Ta'ala a prouvé leur faiblesse lorsqu'Allah Ta'ala a détruit ce peuple. Comment Allah Ta'ala a détruit ce peuple? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتِ. Allah Ta'ala a envoyé sur eux un vent glacé. Et ces jours de le Coran sont décrits comme étant des jours néfastes. Alors la question qu'on se pose, qui parmi ce peuple qui était pourtant très fort pouvait arrêter un adab qui venait de la part d'Allah? Et de nos jours, s'il y a un cyclone, quel chef d'État, quelle association, quel organisme, quel millionnaire, quel milliardaire peut arrêter un brin de vent? Qui peut arrêter, peut empêcher une goutte de pluie de tomber, pardon? Qui peut empêcher une vague de frapper la côte? Personne. Lorsqu'Allah Ta'ala ordonne à une de ses créatures de se manifester, vent, pluie, vague ou autre chose, qui peut empêcher la terre de trembler? Les grands géologues, ils peuvent vous dire que dans 24 heures, il y aura un tremblement de terre. Ils peuvent vous dire, d'accord? Mais maintenant, dites à ces mêmes scientifiques, avec la science que vous avez, mais empêchez donc cette terre de trembler. Qui peut faire ça? Même les plus riches, les plus puissants, les grands professeurs, ils ne pourraient jamais faire ça. Quand Allah envoie quelque chose, Allah a décidé que son adab tombe, et on va voir le terme dans un instant. Ce n'est pas un terme moisin, subhanallah. Dans ce cas-là, va utiliser فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَبَّ عَذَابٍ. صَبَّ, c'est comme si je prends un verre d'eau, je verse sur quelqu'un. On verse sur quelque chose. Le adab est tombé sur eux. صَبَّ. Le adab est tombé, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables de réagir. C'est arrivé subitement, personne n'était capable de s'en sortir ou d'éviter ce adab. Voyez. Deuxième chose qu'on peut noter, comment Allah a détruit ce peuple. Le vent qui a détruit le peuple de Ad, c'était Sab'a layalim wa thamaniyata ayyam. C'est un vent qui a duré 7 nuits et 8 jours. La question qu'on se pose, qui est capable d'ordonner au vent de frapper une région du monde et pas une autre pour un moment précis qui commencera tel jour, telle heure et qui se terminera tel jour, telle heure par Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui dans ce dunya peut empêcher ou peut équater un phénomène cyclonique ou un phénomène météorologique? Personne, aucune créature. On voit, quand le créateur décide, il provoque ce qu'il veut. Allah, il contrôle les forces. Allah, il contrôle le temps. Cette force se manifestera pendant un certain nombre de temps. Pendant un cyclone, vous voyez les vagues, d'accord? Maintenant que le cyclone est terminé, si vous voulez, qui peut provoquer une vague maintenant? Non, Allah a décidé que ça s'arrêtera lundi à 6h, par exemple, ça s'arrêtera comme ça. Vous voyez, l'être humain se doit de méditer, de réfléchir sur la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, c'est écrit, comment étaient ces gens? Ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya. Traduction, ils étaient comme des souches de palmiers évidés. C'est comme un palmier, on a enlevé le cœur, tout ce qu'il y a dedans, ça reste comme l'écorce. Les gens étaient allongés par terre, détruits. C'était comme des feuilles qu'on avait fanées, comme l'écorce du palmier qui était tombée. Il n'y avait pas une personne qui a survécu. Ça, c'est la qudrat d'Allah et la puissance de son adab lorsqu'Allah a décidé de détruire un peuple. Et Allah dit au Coran, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Est-ce qu'il y a eu, on pourrait dire en ce sens, est-ce qu'après eux, il est resté quelque chose? Après le adab d'Allah, il n'y a plus qu'un signe de vie dans ce peuple. Lorsqu'Allah a décidé de détruire ce peuple et tous les autres peuples, il n'y a pas eu une personne qui a eu la vie sauve. Et dans d'autres versets, différents versets qui décrivent ce adab, que Al-Adab al-Khisf al-Hayat al-Dunya ou Al-Adab al-Akhirat al-Akhza, que cette destruction, c'était juste la punition dans ce dunya. Alors que la punition de l'Akhirat, elle sera encore plus forte, plus humiliante. La punition de ce dunya pour qu'il quitte, pour que ses âmes injustes quittent ce dunya, c'était celle décidée par Allah pour un temps, un moment précis. Dans ce cas, c'était 7 jours et 8 nuits. D'accord, 7 nuits, pardon, et 8 jours. Et dans le akhirat, le adab n'est pas comparable. On ne compare pas un châtiment de l'au-delà avec un châtiment de ce dunya. Première différence. Et deuxième différence, le châtiment de l'au-delà, lui, est éternel. Tandis que le châtiment de ce dunya est limité. Soit Allah il arrête le châtiment, soit l'âme de la personne sort. Allah dit que la personne meurt par le châtiment. Avec la mort, les souffrances s'arrêtent. Mais dans le akhirat, les souffrances ne s'arrêtent pas. Dans le verset, Allah dit que la mort de Dieu, juloudhum badalnahum juloudan ghayraha liyadhuq al'adhab. Que lorsque les gens ils auront leur peau brûlée, cramée, on pourrait dire, et qu'il n'y a plus de peau, Allah donnera à ces créatures d'autres peaux pour que l'adab soit continuel, perpétuel, que les souffrances ne s'arrêtent pas, qu'Allah nous protège. On comprend à travers ce coup à verset, et à travers différents versets qui expliquent comment l'adab est détruit. Là, on a cité avec détail que pour ce peuple de Ad, le reste non. Comment l'adab est capable de détruire un peuple et personne ne peut arrêter le adab d'Allah. Et ce schéma, on le retrouve à toutes les époques, même maintenant. Des gens qui ont eu soit la connaissance, Soit ils sont forts, ils ont la force, ils ont une armée impressionnante, ils ont peut-être même la bombe atomique dans des pays, ou alors ils ont une puissance reconnue dans le monde et ils se croient supérieurs à Dieu. Mais lorsqu'Allah décide de détruire, vous pouvez avoir toutes les armes, toute l'intelligence, toute la force au monde, le adab d'Allah, ce même adab qui a détruit des peuples plus forts que nous, peut détruire des peuples comme nous ou des peuples après nous et qu'Allah nous en protège. Voyez ? Donc c'est un ibra pour les personnes qui n'acceptaient pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes de Quraysh, et pour tous ceux qui vont venir après eux. Ça c'est la première. Iram, Iramadat al-Imad. Le deuxième peuple dont Allah il donne l'exemple de Surat Al-Fajr, c'est le peuple de Iram. Dans certains français disent que Iram c'était une tribu. D'autres disent que Iram c'était un village. Que ce soit une tribu ou un village, ce sont des peuples qui ont suivi le même schéma, qui se croyaient plus forts, et Allah les a détruits et a montré leur faiblesse. Irama dhat al-imad, c'était des gens qui construisaient de hauts bâtiments. Ce n'était pas des bâtiments, mais leur construction était reconnue. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ils avaient des constructions qui étaient inégalables dans le pays. Personne ne pouvait faire des constructions, personne n'avait eu ce don comme ces personnes avaient eu. Et quand ils ont eu, ils croyaient être plus forts. Ça rejoint un verset de là, Oxymon, verset qu'on avait expliqué une fois, subhanallah, ce verset que, ça ne me revient pas à l'esprit, que les personnes disent, ils se croient qui peut nous faire quelque chose. Un verset de là, Oxymon l'avait expliqué. C'est le même schéma, c'est le même piège, la même tentation de Shaitan. Lorsqu'on a, on se croit au-dessus. On croit qu'on est intouchable. Et là, Allah Ta'ala, il montre qui est le plus fort, qui est au-dessus, et qui est le makhlouq, qui est la créature. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Voyez ? Autre exemple, on avait dit ça la dernière fois, la différence entre nous et les peuples d'avant. Nous, quand on fait des grandes constructions, on a des grues, on a des, comment on appelle ça, des marteaux piqueurs, on a toutes sortes d'appareils, d'engins, de gros appareils pour percer, pour creuser, pour tout ça. Voyez ? Mais les gens d'avant, eux, ils faisaient avec leurs propres mains. Donc, un bâtiment, une construction élevée par ce peuple, c'était un signe de puissance plus important qu'un bâtiment que nous on fait. Parce que, on va voir d'autres peuples, ils creusaient dans la montagne avec leurs mains, ou avec leurs outils, mais avec leur force physique uniquement. Vous voyez ? Wa thamud alladhi, c'est l'avant-dernier qu'on a terminé. Wa thamud alladhi najabu s-sakhra bilwad. Troisième exemple, le peuple de Thamud. Hein, et Allah Ta'ala m'a envoyé quel prophète, si on avait expliqué l'histoire il y a quelque temps, le Hazrat Salih alayhi salam, et la région était proche de Tabouk. Lorsque le prophète est parti à la campagne de Tabouk, l'armée des musulmans est passée près du village, et le prophète a dit La tadkhulu ala ha'ula il qawm il mu'adhabina illa an takunu bakina. Jusqu'à la fin du hadith, le prophète a dit, hadith Bukhari Sharif, le prophète a dit que ne passez pas dans cet endroit hein, sans que vous ne soyez en pleurs. Il faut être attristé et avoir la crainte qu'Allah nous punisse également en ce sens. Vous voyez ? C'est-à-dire que les ulama disent que lorsqu'on voit des gens qui ont été éprouvés par Allah, qui ont été punis par Allah, ou lorsqu'on voit des vestiges de peuples qui ont été punis par Allah, on ne doit pas faire comme ceux qui n'ont pas iman. Hein, ils voient des. Vous savez, vraiment en Italie, il y avait un volcan qui anéantit tout un peuple, pas la Sicile, ou je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais quand on retourne des vestiges, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des musées. Ils ne comprennent pas que ça, c'est un signe de la punition. Quand Allah détruit un peuple, on ne doit pas les contempler. On ne doit pas les contempler ce qui s'est passé. Et de nos jours, on est en train de regarder l'actualité. On voit les images de tsunami. On voit les images de tremblement de terre. On voit les images de tout ça. On continue à manger. On mange. On a dit, incroyable, incroyable, tout ça. On ne comprend pas que ça, c'est un signe de la puissance d'Allah. Logiquement, nos cœurs doivent trembler. Que du jour au lendemain, qui nous dit qu'on est à l'abri de ce genre de punition ? Surtout quand on connaît la Réunion Tunisie qui est sur un volcan. Vous voyez ? Alors, le risque, qui peut empêcher le volcan, tout d'un coup, le magma, il monte, il y a une éruption. Qui peut empêcher ça ? Personne ne peut empêcher. Vous voyez ? Qu'Allah nous protège et qu'Allah nous donne la vision du cœur, qu'on comprend la grandeur d'Allah à travers sa création et dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'agit pas comme ceux qui n'ont pas iman, qui voient que la vie c'est un moment de plaisir, un long fleuve tranquille, qui ne font que contempler ce qu'il y a. Vous voyez ? Alors on était où ? Alladhi najabu s-sakhra bilwad. Et oui, et puis il y a une chose également, les ulama disent que la différence entre ces peuples d'avant et les peuples de nos jours, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne détruira pas cette ummah comme il a détruit le peuple d'avant. Mais avant de venir là-dessus, il faut dire ça en résumé, on finira avec Wa Fir'auna dil Autal. Pharaon, on n'a pas besoin d'expliquer l'histoire, c'était ce tyran qui gouvernait l'Égypte et qui avait humilié le peuple de Banu Israël. Il égorgeait les enfants et il laissait vivantes donc les femmes. Et pourquoi il agissait de la sorte? Parce que certains de des savants ou des sorciers avaient dit que viendra un homme des fils de Banu Israël qui aura le dessus, qui prendra ta place mais qui te terrassera. Donc Pharaon avait peur, connaît l'histoire. Pharaon va ordonner à son armée de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons qui allaient naître. Et donc il a fait toutes les asbab. Toutes les asbab étaient réunies, tous les intermédiaires étaient réunis. Il savait ce qui allait se passer, il a agi et il avait la force de le faire. Les gens ont tué, son armée a tué tous les garçons qui devaient naître. Oui. Mais Allah Ta'ala là aussi a montré que c'est Allah qui décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec ou sans intermédiaire. La personne dont il craignait la naissance est née et a grandi sous le toit de son château, dans sa maison. Que sa femme fut éprise d'amitié et de muhabba pour ce bébé, et que sa femme apprit à adopter cet enfant, et donc Pharaon, il craignait un homme qui devait naître, et cet homme est né et a grandi sous le nafaqa. Il a été nourri même par Pharaon. Pharaon qui a accueilli Moussa alayhi salam, et donc Moussa alayhi salam donc vivait avec Pharaon. Et Pharaon c'était. On voit, ils disent que comment Pharaon, il avait dit Anna Rabbukum al-A'la, il avait osé dire aux gens que je suis votre Dieu. Il dit que Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, il n'y a pas d'autre ilah à part moi, na'ouz billah. Un tel degré de inan, d'orgueil, qu'avait atteint Pharaon, Am ana khayrun min hadha alladhi, d'autres versions encore, il avait dit Alaysa li mulku Misr. Ça c'est le fitna. Lorsqu'il a le pouvoir, il dit aux gens, mais vous voyez pas que toute l'Égypte, c'est moi qui contrôle. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Comme il contrôle le pays, il croit que toute la création l'obéit. Il dit que ce fleuve, il coule au-dessous de moi. Le fleuve, certainement dit que c'est le Nil. Il croit que ça aussi, ça m'obéit. Donc Pharaon a été perdu par son pouvoir. Donc Pharaon, wa Pharaon a dit l'autal. Et l'expression est assez complexe. Ça veut dire que Pharaon, qui avait une force immense, la traduction correcte, c'est wa Pharaon a dit l'autal. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme osait pieux. Donc, oui, déjà en français, pour comprendre les pieux, c'est pas simple. Donc, ça veut dire, les français disent que Pharaon avait une force, une armée exceptionnelle, et que son armée était variée. Il y avait les soldats avec les armes, il y avait également les devins et les sorciers. Tout cela composait l'armée de Pharaon, de Pharaon, alayhi la'natullah. Vous voyez ? Alladina Pharaon fil bilad, ils ont semé la corruption sur la terre. De quelle manière فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. On va rester fidèle à la traduction du Coran. Et il y avait commis beaucoup de désordres. Donc tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Et il y avait commis beaucoup de désordres. C'est-à-dire entre autres la désobéissance aux ordres d'Allah Ta'ala, le kouf, la non-reconnaissance de la risala, de la prophétie de Moussa alayhi salam, et également l'oppression sur Banu Israël, l'oppression d'une manière générale sur les gens. Vous voyez ? Alors qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a fait? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ. Allah Ta'ala a déversé sur, et ça c'est le verbe le plus approprié pour montrer comment ils étaient incapables de se protéger. C'est le terme sabba, c'est pas comme jeter. Le terme sabba, c'est vraiment faire tomber. Ça, les termes en arabe, c'est tellement précis que l'Adam a touché ces personnes et l'Adam a terrassé toutes ces personnes. Allah Ta'ala dit le terme sauta adab, et à sauta c'est le bâton. Et lorsque les Arabes ils vont dire que vraiment, le pire des châtiments, c'est utiliser le saut. C'est, ça c'est les commentaires des linguistes arabes. Saut al-Azab disent que c'est un azab qui est en même temps d'un très haut niveau, un azab le plus fort des azabs, mais en même temps un azab varié de toutes les façons. Donc c'est pour ça que l'on a utilisé ce terme. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ. Inna rabbaka la bil mirsad. Et ce dernier verset avec lequel on va conclure, c'est donc quand ton Seigneur demeure aux aguets. Et ce dernier verset, ce verset donc avec lequel on va conclure. Les Moufassins disent que c'est un verset pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes hein, qui écoutent ce verset, qu'Allah Ta'ala est vigilant. Allah Ta'ala observe la personne qui sort des frontières, la personne qui désobéit aux ordres d'Allah Ta'ala, un jour ou l'autre, la personne goûtera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets encore, hein, il prouve la même chose lorsque Shu'aib disait à son peuple, أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. Le peuple de Shu'aib alayhi salam met en garde son peuple, attention, vous n'avez pas peur qu'Allah vous punit comme il a puni, comme c'est arrivé au peuple de Noé, au peuple de Houd, au peuple de Salih. Mais à nous aussi de comprendre que comme ces autres peuples ils ont été détruits par Allah, nous aussi on peut craindre qu'Allah il châtie des personnes à cause de leurs péchés. Donc on a vu aujourd'hui l'histoire de trois peuples, Ad qui était très fort, Thamoud qui construisait, qui avait cette force de construire et qui a été trompé par leurs biens financiers, et Pharaon qui était l'homme qui avait le plus grand pouvoir sur ce dunya et qui a été trompé par son mulk, qui a été trompé par son pouvoir. Et ces trois peuples ou personnes ont fait ce péché en commun, ils ont fait preuve d'istikbar, ils ont fait preuve d'orgueil, ils croyaient qu'ils étaient plus forts, et Allah Azza wa Jal a montré à ces gens qu'ils étaient en fait rien du tout. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le prophète alayhi salam avait demandé à Allah Ta'ala de ne pas détruire son peuple de la sorte, et Allah Ta'ala, si on trouve le hadith, on avait commencé à citer tout à l'heure, Allah Ta'ala a accepté le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais détruit de la sorte d'une telle manière. Après, en commentaire, le Mufassir dit que, mais seulement ce peuple, il peut être détruit par eux-mêmes, s'il n'y aura pas un azab général qui atteindra notre communauté, la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, nous ne sommes pas à l'abri d'un azab qui viendra de nous-mêmes, par nos ikhtilafs, par le fait qu'on ne soit pas d'accord, ou alors nos divergences, ou la jalousie et la haine qu'il peut avoir dans nos cœurs, qui peut opposer les gens les uns contre les autres, ce qui fera que les gens pourront se détruire les uns les autres. On appelle ça les hurub, al-hurub al-muqatala, des peuples ou des pays qui se font des guerres et qui se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent leur population, ils détruisent leurs biens, leurs richesses, ils détruisent les sources de nourriture, de rosée, de bienfaits. De cette sorte, cette communauté peut être détruite par la bêtise des propres personnes qui habitent dans cette Ummah. Et pour ça, pour conclure, Moufassi dit qu'on doit faire toujours très attention de ne pas s'opposer, de ne pas avoir d'éviter les divergences, d'éviter les sources de conflits. Et tout ça, ça vient de la part de Shaitan. Lorsque Shaitan, il veut avoir le dessus sur les gens qui ont iman, Shaitan va faire en sorte de diviser les cœurs, de monter les uns contre les autres. Et le plus grand piège de Shaitan, c'est quoi? C'est la jalousie, al-hasad. Parce que lorsque la jalousie entre dans le cœur d'une personne, qu'est-ce qui sort du cœur? Al-ikhlas. Al-ikhlas et al-hasad ne peuvent cohabiter. On ne peut en même temps être envieux de notre prochain et être sincère. Ces deux choses-là ne peuvent cohabiter dans un même cœur. Et malheureusement, on voit que même si on dépense de l'argent, on donne du temps dans le dîn, très souvent on voit que les cœurs ne sont pas unis. Il n'y a pas muhabba. Et là, on comprend que lorsque le prophète il disait que innamal a'malu binniyat, lorsque le prophète il parlait de la sincérité dans les actions, mais mes chers frères, si dans les actions on n'a pas la sincérité, on pourra faire autant d'efforts pour la religion, on pourra dépenser pour faire ce qu'on veut, donner autant de nos biens, financer ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y aura pas la sincérité, mes chers frères, les actions ne seront strictement d'aucune utilité. Alors au contraire, que si différentes actions, différents groupes qui travaillent dans un même but, main dans la main, chacun selon sa spécificité, mais que nous recherchons le contentement d'Allah, et nous voulons que la religion, le dîn, soit transmis de génération en génération, que nos enfants aient le dîn un jour lorsqu'on quittera ce dunya, là on va voir le fruit de notre travail. Qu'est-ce qui fait que nous avons tellement de moyens, nous avons tellement de gens qui bougent ici, mais que Ali, tel cas, Ali, mais ça pas, tel, pas comme moi, Ali. Ali, non, ben, Descartes, écarte. Quand on voit ce genre de réaction, que tu dis, on entend, on va en stade. À partir du moment où nos efforts n'ont pas pour but que rechercher le consentement d'Allah, et qu'on n'a pas le fikal de Hidayat pour nos enfants qui vont venir, alors nous ne verrons pas les fruits. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de personnes qui sont dans le mauvais chemin, alors que nous avons autant d'infrastructures? Mais chers frères, wahdatul kalima, être uni, avoir muhabba, il est plus important d'avoir 50 personnes avec un même fikal et qui recherchent que le consentement d'Allah, même si on n'a pas grand-chose. Chacun a 2 euros, 5 euros dans la poche. Ça, c'est une force qui est sûre, c'est une valeur sûre. C'est mieux que vous avez 3 personnes qui sont tous millionnaires, qui peuvent tous construire des mosquées de 50 mètres de haut. Je n'en dirai pas plus. Mais ça, là, ça nous fait comprendre que lorsque le prophète donne l'importance de la sincérité, lorsque le prophète donne l'importance de la muhabba, que les gens qu'ils aient l'amitié, que les cœurs restent unis, on comprend que ça, c'est la clé du succès pour la Ummah. Et que si nous agissons de la sorte que nous voulons l'honneur, alors qui c'est qui va payer les pots cassés en premier? Vous savez qui c'est qui va payer les pots cassés? Pas moi, mes enfants, mes petits-enfants. Parce qu'on va quel héritage, quel patrimoine on va leur léguer? On va leur léguer nos divergences. On va leur léguer la haine dans les cœurs. On va leur léguer la jalousie dans les cœurs. Et on va leur léguer nos mauvaises habitudes, que lorsqu'on fait quelque chose, il faut qu'on soit au centre du monde, que tout le monde reconnaît que c'est moi qui est là, c'est moi qui a fait. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah renforce la sincérité, installe la sincérité dans nos cœurs. Qu'Allah enlève la jalousie des cœurs. Et qu'Allah unisse nos efforts, que tout ce qu'on fait, nous recherchons uniquement le contentement d'Allah, subhanahu wa ta'ala.